chronique terrienne, une fois par mois sur Radio Saint-Aff par Cécile Blanche.
Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le Nord Arctique avec les Sam ou Sami. Dénommés par les premiers Européens à les avoir rencontrés, Lapons, qui vient de leur costume traditionnel bariolé. Lap veut dire rapiécé, et bien sûr, les Sam ne prisent pas du tout ce terme. Les Sam ou Sami sont un des plus grands groupes indigènes en Europe. Leur nombre estimé aussi entre 85 000 et 135 000 individus. Les premières traces humaines dans les zones les plus au nord de l'Europe remontent à 13 000 ans. Les Sami seraient le peuple à l'origine de la Finlande, où ils auraient initialement vécu. Des hommes sont aussi arrivés en Norvège il y a 12 000 ans et on considère aussi qu'ils sont vraisemblablement à l'origine des Samis. Les historiens, même s'il n'y a pas de certitude, conviennent que la culture Sam descend de celle de ses premiers habitants. C'est le seul peuple à vivre en majorité au nord du cercle polaire. Leur territoire, appelé Sapmi, s'étend des côtes de l'Atlantique Nord en Norvège à la presqu'île de Kola, au nord de la partie occidentale de la Russie. Cette région de 260 000 km² s'étend donc sur quatre pays, Norvège, Suède, Finlande, Russie. Le paysage de cette région porte l'empreinte de la dernière glaciation. À l'ouest, de hautes montagnes glacées et une côte profondément échancrée de fjords. À l'est de la chaîne montagneuse se trouve un plateau accidenté, sorte de toundra, semé de marécages et traversé de rivières. Les bords de ce plateau sont encerclés de forêts et de conifères qui pénètrent dans les vallées. Les vastes plaines de bouleaux nains, les bruyères marécageuses, sont des éléments essentiels pour l'alimentation du renne. Les Samis vivaient de ce que la nature leur donnait à exploiter chaque année et en toute saison. Ils ont passé des milliers d'années à chasser les rennes, leur ressource principale, en se servant d'armes ou de pièges. À la longue, ces chasseurs ont fini par s'organiser pour exercer un contrôle sur les troupeaux, protégeant les rennes des prédateurs et ne prélevant que le nombre d'animaux nécessaires à leurs besoins alimentaires. Le renne est non seulement aliment, mais aussi matière première avec sa peau, ses bois, pour fabriquer des objets de la vie quotidienne. Les Samis ne dédaignent pas non plus la chasse aux oiseaux, la cueillette de fruits et d'herbes diverses. On peut diviser les Samis en plusieurs groupes. Les Samis de la côte, les plus nombreux, vivent le long des côtes septentrionales de la Norvège et exercent la pêche et l'agriculture. Les Samis de la montagne sont les vrais héritiers du peuple nomade du Grand Nord européen, qui vit de l'élevage du renne. Ce sont eux qui transmettent les coutumes de génération en génération, ainsi que celles des migrations saisonnières. Ils habitent dans la partie intérieure de la Laponie. Les Samis des forêts habitent en Laponie suédoise. Les Samis d'origine russe, les Skolts, vivent dans la péninsule de Kola et en Finlande, où ils se sont installés après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les Samis des fleuves, ce sont des Samis de la côte qui se sont installés le long des fleuves. La pêche est leur activité principale. la société SAMI est minutieusement structurée. L'unité de base est la SIJDA, un village regroupant plusieurs familles et organisé en SIJDAER, collectif de gestion de la communauté. Chaque SIJDA dispose de son propre territoire, ou plus exactement disposé de son propre territoire. La religion des Sam a beaucoup de points communs avec les autres religions des régions polaires, comme le culte des ours ou le chamanisme. Il y a plusieurs dieux, et les Sam pensent que la nature a une âme et abrite des esprits. Les hommes et les femmes ont leurs propres dieux, différents. Le Noédi, c'est-à-dire le chaman, et leur prêtre. Chaque communauté a son chaman, où il exerce une forte influence en tant que conseiller, médecin et personnage religieux. Il a une relation privilégiée avec les esprits. Il est capable de se mettre en transe et voir l'avenir. Son plus important outil est le runebomen, un tambour décoré avec des runes ou signes et les représentations des dieux samis. Seul le chaman pouvait, entrant en transe, à l'aide du tambourin et d'incantations magiques, percer le secret de la puissance incontrôlable de la nature et des intentions des dieux. En particulier, il y a le dieu du tonnerre, aux nombreuses attributions, fertilité, pêche, chasse, lacs, poissons et animaux sauvages. Il y a aussi une cohorte de déesses et d'esprits parfois malins, y compris le diable lui-même. Cette religion traditionnelle a été majoritaire jusqu'à l'époque médiévale. Puis, le christianisme s'est lentement imposé. Malgré les nombreuses tentatives des missionnaires luthériens, parfois très dures, le chamanisme perdurait. Les tambours des trolls, peints en rouge et ornés de dessins magiques, ont longtemps résonné dans les têtes samis. Ils rythmaient le culte interdit aux divinités suprêmes, le soleil source de vie et la lune. De nos jours, les Samis écoutent moins les bruits de la nature et le chamanisme est très très peu pratiqué et suivi. Les Samis ont développé un riche artisanat, le duoji en langue sam, qui inclut aussi bien l'art populaire que les objets artisanaux qui sont fabriqués avec des matériaux naturels comme les peaux, la fourrure, le bois et ses racines, les bois de cervidés ou des os. Duoji était un savoir nécessaire pour un sami, car celui-ci devait fabriquer les objets dont il avait besoin. Aujourd'hui, cet artisanat est toujours vivace, reconnu par un label et constitue une source de revenus non négligeable. Outre le renne, on utilise aussi des perles en verre, de l'étain et de la laine. À partir de ces matériaux, les Samis fabriquent des vêtements, bijoux, bols, traîneaux ou skis. Les objets ont toujours des formes et des couleurs particulières. Duoji est un art typiquement Sami. Un art qui a toujours suivi les Samis et ils sont encore nombreux à le pratiquer. Moyen Âge, la Norvège, la Suède et la Russie prirent le contrôle du territoire sami. Les ressources diminuèrent, d'autant que les samis devaient payer des impôts aux trois pays. Ils furent obligés de se spécialiser. C'est à cette période que l'élevage de rennes s'est installé parallèlement à la pêche comme moyen de subsistance. Les rennes leur fournissaient du lait et ils s'en servaient comme moyen de transport. Et c'est ainsi qu'au XVe siècle déjà, toute une vaste économie basée sur un mode d'élevage des rennes était présente en pays sam. De plus, la chasse aux animaux à fourrure était une activité lucrative dont les produits s'échangeaient jusque sur les marchés de l'Europe centrale. Les terres samies furent progressivement divisées avec la démarcation des frontières des États. À la place de l'organisation du Sijda, après leur colonisation, les Sam ont dû accepter les lois, les régimes religieux et politiques des pays d'appartenance. La colonisation s'intensifiant au XIXe siècle, les États adoptèrent une politique privilégiant les intérêts de la population dominante. Ils imposèrent une intégration des Samis à leur culture. La conséquence de cette politique fut l'aliénation linguistique et culturelle du peuple sami. Les Samis, dès lors, comprirent l'importance de la coopération de toute la nation sami. Ainsi, la première réunion des Samis du Sud et du Nord fut organisée en 1917 à Trondheim, en Norvège. Cette coopération s'intensifia après les guerres. En 1953, la première conférence des Samis des trois pays s'est tenue à Jokkmokk, en Suède. Elle insista sur le droit des Samis à exploiter les ressources naturelles et à s'exprimer dans leur langue. Il fut également décidé de fonder le Conseil Sami regroupant tous les Samis. Grâce à leurs actions, leurs revendications, la Norvège, la Suède et la Finlande ont fini par accepter la différence des Samis. Et plusieurs lois et règlements leur permettent de retrouver leur langue, leurs traditions et leur organisation sociale à peu près indépendante de l'État. Le Conseil Sami défend les intérêts de leur peuple. Il dispose d'un comité culturel interlapon, le Sami Atnam. Bien que s'adaptant au monde moderne, ils appliquent leurs traditions. Ils ont un sentiment d'identité très fort. Mais en Suède, leur statut n'est pas protégé par la Constitution. Le dialogue s'en trouve limité. Et pour cause, il y a en Suède d'importants gisements sur les terres samis. Pour la vie de tous les jours, les samis vivent dans des maisons, avec tout le confort moderne. Terminée la tente ancestrale, kata. Faites de minces troncs de bouleau, recouverts de toile ou de couvertures de laine. Ils utilisent les motos de neige et les hélicoptères pour leurs élevages de rennes.
Ah, 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 ah.
Malheureusement, le territoire des Samis subit les exploitations pétrolières et gazières, minières, forestières, hydroélectriques. Par exemple, une partie de leur territoire est actuellement envahie par l'exploitation minière aux alentours de la ville de Kiruna en Suède. Le minerai de fer produit dans cette mine représente 90% de la production européenne. Elle est tellement envahissante et expansive que la décision a été prise de déménager la ville. Ces activités industrielles contraignent le peuple à abandonner l'élevage de rennes ou la pêche traditionnelle complètement. La pression foncière, la dégradation écologique, les changements climatiques sont des menaces imminentes. Et de plus, les pays scandinaves encouragent le développement du Grand Nord industriel et l'installation de nouveaux habitants. Pour ceux qui vivent encore en pleine nature, deux grands secteurs d'activité sont présents. Le bois, car l'immense forêt est une réserve quasi inépuisable pour l'abattage. Les cours d'eau qui la parcourent permettent le transport naturel de celui-ci au printemps. Mais l'exploitation industrielle de cette richesse n'est pas sans conséquences. Elle diminue le territoire historique de la faune locale et l'exploitation a besoin de routes praticables en permanence, c'est-à-dire qu'on apporte du sel en grande quantité, ce qui change l'écosystème endémique. À part le bois, il y a l'élevage de rennes, qui est toujours présent malgré l'évolution de la société. Il ne s'exerce plus du tout de la même façon qu'autrefois. Plus question de suivre les rennes en déplaçant tentes et familles. De nos jours, les Samis sont sédentarisés et vont à la rencontre des rennes en motoneige et hélicoptère pour repérer le troupeau. La transhumance de printemps ne se fait uniquement qu'à l'initiative des rennes qu'ils calquent ce voyage avec la mise bas des femelles qui doit se faire vers les hauts plateaux au-delà des fjords. Cet élevage est menacé par la mise en exploitation des terres vierges et la pollution. La catastrophe de Tchernobyl a d'ailleurs failli porter un coup fatal à l'élevage. Des milliers de rennes ont dû être abattues suite à l'ingestion de lichen radioactif. Le taux toléré de radioactivité pour la viande de rennes a été porté à 6000 becquerels par kilo, contre 600 pour la viande de mouton. La création de réserves pour la survie des rennes a entraîné la présence et l'augmentation des prédateurs. Les loups, lynx, aigles déciment les troupeaux livrés à eux-mêmes. La présence d'hommes, de chiens qui préservaient les troupeaux des prédateurs ayant disparu. Pourtant, la protection de l'environnement arctique, dont la première déclaration remonte à 1991, souligne la responsabilité des États-nations. Tout un arsenal de règles, de dispositions, devrait permettre la préservation de ces territoires et de leurs habitants. La création du Conseil de l'Arctique, avec la participation des communautés autochtones, la reconnaissance par les États de la relation des peuples à leurs terres et de la contribution de ceux-ci à la protection de l'environnement, la Convention des droits de l'homme, la Déclaration de 2007 sur les droits des autochtones, la Convention de 2003 de l'UNESCO qui sauvegarde le patrimoine culturel immatériel, langue, histoire orale, folklore, les connaissances et les traditions, tout cet arsenal devrait protéger les Samis comme les autres peuples autochtones de la planète, mais ceci n'est le cas ni pour les uns, ni pour les autres. Heureusement, il y a les contes, les légendes, les mythologies pour mettre un peu de baume sur leur cœur. Jusqu'au début du XXe siècle, la littérature Sam s'est transmise oralement. Et c'est d'abord la transmission des mythes fondateurs, valorisant les héros et rappelant les valeurs de leur société. Les costumes, les contes et légendes, les fêtes sont recréés et enseignés dans les écoles en langue Sam. Voilà ce qu'on raconte encore aujourd'hui sur les esprits gardiens auxquels on croit encore chez les Samis. Utu Uko était un homme sage, un esprit gardien, un sorcier. Et il surveillait et protégeait son domaine, la montagne Pia. Quand, dans les années 1960, une antenne de télévision construite sur le Pia est tombée, les villageois ont averti les constructeurs que le mât ne serait pas capable d'être érigé sans un premier paiement à Utu Uko, en jetant des offrandes dans le lac. Les constructeurs n'ont pas cru toutes ces idioties et ont continué de travailler. Une fois que le mât fut reconstruit, il ne tenut pas debout très longtemps et retomba à nouveau. Il fallut de nombreuses tentatives avant que les constructeurs têtus n'arrivent à croire qu'il était nécessaire de faire des offrandes à Utu Uko. Et depuis, le mât tient toujours. Les villageois ont toujours jeté des offrandes dans le lac pour apaiser la colère de Utu Uko. Les contes assurent que les habitants des enfers sont des gnomes, qui élèvent des rennes et vivent comme les Samis, mais sous terre. La légende dit que les habitants des enfers sont les enfants d'Ève, qu'elle cacha de Dieu, car elle n'avait pas eu le temps de les laver, tous. Lorsque Dieu vint à Ève et lui demanda si tous ses enfants étaient là, Ève acquiesça. Alors Dieu, qui bien sûr n'était pas dupe, répondit que ceux qui étaient cachés aux yeux de Dieu devraient être cachés aussi à l'avenir aux yeux des gens. C'est ainsi qu'il eut des gnomes et qu'ils vécurent sous terre. Les vieux arbres ont aussi leurs propres esprits. Ils donnent de la force, s'animent lorsque l'on s'appuie contre eux et avertissent des dangers. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Nous quittons les Samis. Ce que vous avez entendu en accompagnement musical sont des chants ioïques, traditionnels et typiques des Samis. En fait, ce sont des poèmes chantés qui célèbrent la nature et les légendes des héros. Chaque année sont organisées des joutes au cours desquelles les chanteurs s'affrontent pacifiquement et pour que vive cette tradition très ancienne. Je vous donne mes sources. Il y a sur le web de très nombreux articles sur les SAM d'hier et d'aujourd'hui. J'ai tiré les informations que je vous ai données des sites suivants. terredessam.com, legrandnord.org, lejournalinternational.info. Sur le site Recherche Arctique, plusieurs articles. Sauvegarder la culture Sami de 2010 de Fagerasi Pagel. Scandinavie, le peuple Sami, les âmes nature de 2010 également de Alice Brouard. Et Wikipédia. Si le sujet vous intéresse, il y a un film sorti en 2016 au titre original Sam Blood, traduit par Les Samis, peuple indigène d'Europe à la recherche de son identité, un film d'Amanda Kernel qui dépeint les discriminations, le racisme et le dénigrement auxquels le peuple Sami a dû faire face. Avant de nous quitter, ce court poème de Paulus Utsi, poète Sami. La parole murmure contre les rochers. Dans l'ombre, quelqu'un écoute, recueille la parole, la transmet et l'accomplit.